Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Grand Bain vous fasse. Un peu de miel dans ce monde de fiel ce matin, coup de projecteur sur les bienfaits du miel. Même si, comme le disait ce bon vieux Sénèque, le miel est amer aux malades, nous verrons quels sont ses véritables bienfaits sur notre santé et notre bien-être. On évoque souvent ses vertus antibactériennes, antivirales, antifongiques, antioxydantes, cicatrisantes, antiseptiques. Nous essaierons d'y voir plus clair en pointant, bien sûr, les limites de tous ces bienfaits. Nous nous intéresserons également aux vertus cosmétiques du miel, à son utilisation en cuisine, et puis nous verrons comment bien choisir son miel, comment repérer les miels frelatés, ces miels où l'on ajoute du sucre ou du glucose. Nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000. Vous pouvez également laisser vos messages écrits ou vocaux sur l'appli France Inter. N'hésitez pas à nous raconter comment vous utilisez le miel au quotidien. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Vous allez bien ?
Très bien.
Médecin et romancier, quel est le menu de votre chronique tout à l'heure ?
Je vais vous parler de ce qui fait le sel ou le miel de notre métier, la confiance.
À tout à l'heure. Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour Ali Rebéi.
On vous retrouve tous les mois pour nous raconter une visite de laboratoire au nom de la Fondation pour la Recherche Médicale, dont vous êtes l'un des fervents ambassadeurs. Hein.
Oui, et aujourd'hui je vais vous parler d'une première en France, une greffe d'utérus qui a donné naissance à un bébé.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bain vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi. Grand bien vous fasse.
Du miel, du miel, du miel, du miel, quel trésor.
Du miel, du miel, du miel, du miel. Tout ce miel, quel trésor.
Bonjour Henri Clément, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de Montpellier, vous êtes apiculteur professionnel, secrétaire général et porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française, cofondateur de l'association Terre d'Abeilles, et vous avez notamment publié chez First « J'installe mes premières ruches pour les nuls ». Bonjour Marie-Claire Frédéric.
Bonjour.
Journaliste culinaire, historienne de l'alimentation, vous venez de publier un livre absolument passionnant chez Albin Michel, « Le miel, une autre histoire de l'humanité ». Bonjour Joseph Merlet.
Bonjour Ali.
Vous êtes ingénieur de recherche à l'INSERM, docteur en biophysique, chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg. Vous êtes également apiculteur et vous avez publié un livre très pédagogique, Le miel, résurgence d'un remède millénaire aux éditions de Terran. Alors mon beau vieux Robert me dit que le miel est une substance sirupeuse et sucrée de couleur ambrée, élaborée par les abeilles avec le nectar des fleurs. Mais encore, Joseph Merlet, que peut-on dire du miel ?
Alors, ce que dit votre cher Robert est tout à fait juste, sauf que c'est incomplet, en ce sens que la base, c'est effectivement un produit végétal, c'est-à-dire souvent du nectar, mais ça peut également être du miella, ce que je peux expliquer plus tard, mais l'abeille transforme ces produits végétaux grâce à des substances, donc animales, des enzymes, qu'elle rajoute au miel.
Henri Clément, ce qui est fabuleux avec le miel, c'est qu'il s'agit d'un élixir de fabrication animale, mais d'origine végétale.
Exactement, c'est-à-dire c'est ce que vient de dire votre interlocuteur, c'est-à-dire qu'en fait, les abeilles sont végétariennes. Mmh. Elles se servent des ressources autour du rucher pour produire ces fabuleux produits, le miel bien sûr, mais le pollen, la gelée royale, la propolis et la cire. Donc énormément de produits. C'est le seul insecte au monde qui permet de produire des substances qui sont consommables par l'homme ou utilisables par l'homme.
Marie-Claire Frédéric, racontez-nous en quelques mots votre lune de miel avec cet aliment naturel que les abeilles nous proposent. Pourquoi cet amour du miel ?
Bien, parce que le miel, justement, comme les précédents interlocuteurs l'ont expliqué, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est le seul aliment que nous consommons tout près, produit par un animal. Mmh. Et d'autre part, c'est aussi, quelque part, un aliment fermenté. Comme moi, je m'intéresse beaucoup à la fermentation des aliments. Et c'est un aliment donc fermenté par les bactéries digestives des abeilles. Mmh. Et cet aliment fermenté, donc, nous le consommons exactement comme il est produit. Et c'est le seul aliment à notre connaissance actuelle, qui soit produit par un animal, qui soit fermenté. Donc déjà, ça, c'est assez fascinant.
Joseph Emerlet, racontez-nous votre amour du miel.
Alors, je suis tombé dedans, dans l'amour du miel, le jour où j'ai vu un apiculteur récolter un essaim. J'ai eu devant moi un dompteur d'animaux sauvages, parce que bon, les abeilles peuvent piquer, et quand j'ai vu comme cet homme a enfermé toute cette nuée d'abeilles dans une ruche, je me suis intéressé aux ruches. Et de fil en aiguille, en tant que chercheur, je me suis intéressé aux produits de la ruche, et j'ai découvert là des produits magistraux, car comme cela vient d'être dit, le miel est certainement le dernier aliment non transformé directement utilisable par l'homme.
Et vous, pardonnez-moi.
L'attrait pour le miel, pardon, excusez-moi, l'attrait pour le miel est inné chez l'homme. Le nourrisson déjà est attiré par la substance sucrée du miel.
Et vous, Henri Clément, racontez-nous votre amour du miel. Pourquoi êtes-vous devenu apiculteur ?
Oh ben moi, c'est-à-dire que je suis né dans les Cévennes, dans un petit village au nord du Montégoal, et tout le monde avait des ruches. Et moi, j'ai appris à lire dans les revues apicoles. Ensuite, mon père a voulu m'amener au rucher, et là, j'ai tellement été impressionné par les abeilles que j'ai fait un malaise. J'ai dit, je ne serai jamais apiculteur. Et puis, j'ai poursuivi mes études. Je devais être prof d'histoire. Hein. J'ai fait hippocagne, cagne, etc. Et tout. Et puis, je suis retourné au rucher et j'ai eu là une espèce de révélation. Je me suis dit, c'est ce que tu dois faire, et c'est ce que j'ai fait pour mon plus grand bonheur.
Alors, Joseph Emerlé, le miel est un aliment à haute valeur symbolique et nutritionnelle, au même titre que le lait. Hein.
Exactement. Alors, le miel est un aliment très énergétique. Alors, j'aimerais juste apporter une petite correction sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Le miel n'est pas un aliment fermenté. Hein. Il contient des substances animales, mais ce n'est pas un aliment fermenté au sens où on l'entend habituellement avec les aliments. Alors, il contient toujours au moins 6 sortes de sucre. Ça n'a donc aucun rapport avec le sucre de table. Et il contient en plus des propriétés comme des peptides antimicrobiens, des polyphénols et des enzymes qui fabriquent une substance, le peroxyde d'hydrogène, qui a des vertus désinfectantes.
Je lance une controverse avec Marie-Claire Frédéric sur la fermentation du miel.
Oui, je vais pas me battre, mais le miel est fermenté par les enzymes qui sont fabriquées par les bactéries du système digestif, du microbiote des abeilles, et c'est bel et bien une fermentation.
Henri Clément, vous allez peut-être départager nos deux invités.
On ne peut pas dire que le miel soit fermenté, je crois simplement, en tout cas, c'est pas du vinaigre. Mais
ah non,
simplement...
c'est pas du vinaigre, il y a autre chose.
Il y a énormément de choses dans le miel, et je voudrais aussi ajouter qu'il y a dans les miels, et c'est très très important, des oligo-éléments très divers, très rares, et notre alimentation d'aujourd'hui est souvent carencée en oligo-éléments, et grâce à la consommation de miel et de miel divers, on apporte à notre organisme ce dont il a besoin. Vous manquez de magnésium, vous allez voir le toubib qui va vous filer du magnésium, votre organisme va en éliminer les trois quarts, si ce n'est plus. Quand vous consommez du miel, le magnésium qu'il y a dedans, le barium, le sélénium, tout cela va être assimilé pour votre plus grand bien.
Alors, Marie-Claire Frédéric, la relation entre les abeilles et l'homme, eh bien, c'est le fruit d'une longue histoire. On retrouve des traces de cette histoire sur les peintures rupestres de la grotte de l'araignée en Espagne.
C'est ça, qui date d'environ entre 10 000 et 15 000 ans à peu près. Donc c'est une trace vraiment intéressante parce que ça montre une chasse au miel. Au miel sauvage. On voit une grotte, enfin, on voit une cavité dans la roche, d'où part une échelle, une espèce d'échelle de corde, sur laquelle sont en train de grimper deux personnages, tenant un panier ou une hotte sur le dos. Et le personnage qui arrive en haut dans la cavité, il y a des petites abeilles qui lui volent autour de la tête. Donc, c'est exactement la chasse au miel qu'on peut voir encore de nos jours au Népal, des personnes qui grimpent à des échelles vertigineuses pour aller recueillir le miel dans les essaims sauvages. Et donc ça a plus de 10 000 ans.
Henri Clément.
Oui, moi je voudrais simplement rappeler que les abeilles sont apparues sur Terre il y a plus de 80 millions d'années. Donc ça veut dire qu'elles ont survécu à tous les bouleversements et tout cela. Et rappeler que l'agriculture a à peine 10 000 ans, c'est-à-dire presque rien. Et depuis que les hommes sont là présents sur cette terre, ils ont tissé un lien étroit avec les abeilles. Et dans toutes les civilisations, partout, on retrouve les abeilles, le miel, la cire qui ont été utilisées.
En tout cas, le miel a clairement joué un rôle dans l'évolution. Une chercheuse comme Alyssa Crittenden, écologue comportementaliste et anthropologue à l'université du Nevada à Las Vegas, plaide dans ce sens.
Oui, elle a fait des études dans ce sens. Elle a montré que, en fait, le miel, tel qu'il était consommé durant la préhistoire, était un aliment très énergétique, un aliment vraiment très nutritif. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, le miel est filtré, mais à l'époque, il y avait encore des traces de larves d'abeilles, par exemple, dedans. Donc, ça apportait même des protéines. En fait, c'était un aliment complet. Et les hommes, les humains de l'époque qui mangeaient cet aliment pouvaient se survivre mieux, pouvaient se développer beaucoup mieux. Et de plus, comme le sucre, le glucose est un aliment pour le cerveau, alors elle émet l'hypothèse que notre cerveau aurait grandi, se serait développé grâce à la consommation de miel.
Joseph Emerlé, jusqu'à l'avènement de la canne à sucre, le miel, c'est la principale substance sucrante, hein?
Ah, totalement. Jusqu'à l'avènement, disons, de l'extraction du sucre, donc du saccharose. Donc on sort de la canne à sucre et de la betterave uniquement du saccharose, mais la substance sucrée était essentiellement originaire du miel, exactement.
Henri Clément, à quel moment est-on passé de la chasse au miel sauvage, issue de ruches sauvages, à l'exploitation des ruches domestiques?
Juste avant, j'aimerais préciser aussi que dans l'histoire de l'humanité, le miel a été à la base d'une boisson la plus ancienne avec la bière, c'est l'hydromel.
Ah bon, on va y revenir.
Voilà, d'accord. Et donc, pour répondre à votre question, jusqu'à l'apparition des ruches à cadres, c'est-à-dire où les hommes ont pu séparer les rayons, les changer, les remettre, etc., c'est-à-dire au 19e siècle, ça a été plus de la cueillette. Et depuis l'invention du cadre, donc, l'apiculture a évolué pour devenir beaucoup plus, pas professionnelle, mais plus efficace, vous voyez, dans la gestion de la colonie.
Mais est-ce qu'il existe des différences fondamentales entre les toutes premières ruches et nos ruches contemporaines ?
De toute façon, vous savez, les abeilles, elles construisent toujours les rayons de la même façon, elles fonctionnent de la même façon, simplement c'est la facilité du travail qui a été apportée par cette invention. Mais il faut être aussi très modeste, parce qu'on sait que par exemple, il y a 2000 ans, il y avait des techniques apicoles qui se rapprochaient de celles qu'on a aujourd'hui, avec des sortes de cadres, avec des transhumances, etc. Il faut rester modeste avec les abeilles.
Marie-Claire Frédéric, la plus ancienne image connue représentant l'apiculture se trouve sur un bas-relief égyptien d'un temple solaire vers 2420-2389 avant notre ère.
C'était un mercredi.
<C'est ça>
Oui, en fait, on a une image de la récolte du miel dans une ruche qui est constituée d'espèces de tubes en terre cuite, comme des vases couchés, posés l'un sur l'autre, couchés horizontalement. Et on voit l'apiculteur qui est sur un des côtés de la ruche et qui prélève les rayons de miel qui sont circulaires, parce que ce qui montre que c'était dans un vase circulaire. Et il y a un autre personnage qui tient une torche enflammée. Donc on connaissait déjà l'enfumage des abeilles pour éviter de se faire piquer. Et enfin, c'était exactement comme maintenant. La seule différence, donc, comme l'a dit monsieur Clément, c'est les cadres. Les cadres, en fait, permettent aujourd'hui à l'apiculteur de ne pas détruire complètement l'intérieur de la ruche, parce que quand une ruche sans cadre, imaginez, autrefois c'était des troncs d'arbres évidés ou des huches en terre cuite, en paille entourée de boue, et pour récolter le miel, il fallait tout détruire, il fallait casser la ruche, en fait.
Joseph Emerlé, depuis quand connaît-on les vertus du miel ?
Alors, les vertus du miel sont connues pratiquement depuis toujours. Par exemple, on a des papyrus, le papyrus Ebers, qui date du XVIe siècle avant notre ère, et qui mentionne plusieurs centaines, il y a 150 prescriptions pour des applications externes, une centaine de prescriptions pour des applications par voie interne. C'est donc quelque chose qui est connu depuis très très longtemps.
Monsieur Belin.
Yves, 69 ans, a rendez-vous pour un changement de pansement. Il a une plaie au bras suite à une opération d'un grain de beauté. Et c'est le miel qui va l'aider à cicatriser.
Donc on va en prendre un peu de miel en fait. Donc on va l'appliquer directement sur... Alors vous allez juste tourner un petit peu parce que sinon on va être...
Vous le mettez directement?
Oui, voilà. Et on va vraiment en mettre un tout petit peu.
Du miel comestible sur la peau qui agit comme un guérisseur, Yves n'est pas étonné.
Non, ça ne m'a pas choqué. Moi, je suis de la campagne, alors vous savez, on sait que les choses naturelles, ça marche. Hein. On ne sent rien. C'est agréable, ben oui.
Cette technique de cicatrisation, le CHU de Limoges l'utilise depuis plus de 20 ans, avec des résultats spectaculaires.
Donc, les équipes infirmières et les médecins, on a fait plusieurs études et on a calculé que, en fait, on avait une progression de la cicatrisation de 0,76 cm² par jour. Cette vitesse de cicatrisation a été comparée à d'autres dispositifs, d'autres types de pansements, des pansements, fournis par l'industrie médicale, pharmaceutique, et on avait une vitesse de cicatrisation beaucoup plus rapide.
Extrait du 12h45 d'M6 en 2017. Alors, les vertus cicatrisantes du miel ont une longue histoire. En Inde, en 1400 avant notre ère, la médecine ayurvédique utilisait déjà une pâte à base de beurre clarifié, le ghee, et de miel pour soigner les plaies infectées et les oreilles percées douloureuses.
Exactement. Hein, Marie-Claire Frédéric. C'était connu depuis la plus haute antiquité. On a énormément de textes, même dans l'antiquité gréco-romaine, égyptienne, même sumérienne. Qui nous raconte que le miel était utilisé pour soigner les plaies, pour après la chirurgie, par exemple, la circoncision ou d'autres applications comme ça, à la fois aussi en interne pour soigner les plaies dans la bouche, par exemple, ou les yeux qui, enfin, les maux d'yeux, les yeux infectés. Enfin, il y a énormément d'applications comme ça qui sont connues depuis très très longtemps.
Mais Joseph Emerlet, comment expliquer ces vertus cicatrisantes du miel ?
Voilà. Alors, tout d'abord, il faudrait juste rajouter que en médecine, le miel qu'on utilise, c'est du miel dit médical. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est du miel qui a été sélectionné, contrôlé, stérilisé et qui est conditionné pour ses applications. Pour répondre à votre question, on sait aujourd'hui très bien, la science explique le pourquoi de la chose. Par exemple, dans la lavande, on sait que c'est un polyphénol, en particulier l'apigénine, qui a une action antimicrobienne. Dans le romarin, c'est de la crisine, un autre polyphénol qui est anti-inflammatoire, où on trouve de la catéchine dans le miel de sapin. Et c'est pour ça que les miels qu'on dit médicaux, qui sont des dispositifs médicaux, sont souvent des mélanges de miels qui ont des vertus particulières. Et pour les auditeurs, par exemple, il faut savoir que le champion de la cicatrisation qu'on a testé depuis des années, c'est le miel d'acacia.
Le miel d'acacia. Alors on le voit, hein, le miel est utilisé comme substance thérapeutique depuis des millénaires. On célèbre les vertus antibactériennes, antivirales, antifongiques, antioxydantes, cicatrisantes, antiseptiques. Mais de quoi est composé le miel pour détenir tant de vertus, Joseph Emerlet ?
Alors, le miel comporte 80% de sucre au pluriel. Et il faut savoir que chaque miel contient à peu près toujours une demi-douzaine de sucres et la proportion de saccharose, donc ce qu'on appelle le sucre de table, est infime là-dedans, c'est toujours moins de 5%. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant dans le miel, c'est les 3% de principes actifs. Là-dedans, vous trouvez une enzyme qui est la glucose oxydase, qui est un petit moteur enzymatique qui produit du peroxyde d'hydrogène, de l'eau oxygénée si vous préférez, qui a des vertus antiseptiques. L'abeille rajoute également des peptides antimicrobiens comme la défensine et on trouve dans les miels une molécule antimicrobienne qui s'appelle le méthivioxal qui est fortement représenté dans le miel de Manuka.
Alors Henri Clément, comment est fabriqué le miel ? Que se passe-t-il une fois qu'une abeille butine une fleur ? Racontez-nous un petit peu le processus, Henri Clément.
Déjà, il faut dire que les abeilles et les plantes à fleurs sont apparues sur Terre à peu près à la même époque. Mmh. Et les plantes à fleurs ont attiré les abeilles avec différentes stratégies, des couleurs, des formes, etc., pour être fécondées lorsque les abeilles viennent les visiter. Mmh. Et pour cela, elles ont produit aussi du nectar. Le nectar, en fait, c'est pas du miel. Le nectar, c'est une substance sucrée, humide, très humide. Et donc les abeilles vont le prélever dans les fleurs. Elles vont le ramener dans leur jabot à la ruche. Et le travail de transformation de ce nectar en miel commence. C'est-à-dire qu'elles vont se l'échanger, l'enrichir avec des enzymes, comme on l'a dit. Et surtout le déshydrater. Et quand ce nectar sera suffisamment déshydraté, à moins de 20% d'humidité, plutôt 18-19 souvent d'ailleurs, ou même moins, elles le stockeront et c'est le surplus de miel que les apiculteurs vont récolter. Mmh. Elles peuvent aussi le récupérer sur du mielat. C'est-à-dire que les végétaux produisent une substance sucrée qui est récupérée par des pucerons, et régurgitée par ces pucerons et récupérée par les abeilles.
Et comment
ce
se passe...
les deux sources qui permettent la fabrication du miel.
Et comment se passe cette fameuse déshydratation dans la ruche? Qu'est-ce qui se passe concrètement?
C'est un travail très très long, c'est-à-dire qu'elles étalent le miel avec leur langue, elles se l'échangent, elles brassent l'air dans la ruche pour assécher ce miel, et c'est un travail très très long. Qui demande beaucoup d'énergie. Et quand le miel est suffisamment sec, là, elles peuvent le stocker. Mais tant qu'il n'est pas à ce taux d'humidité qui permet sa conservation, il ne peut pas, il n'est pas considéré comme du miel.
Et est-il vrai que pour produire 500 grammes de miel, les abeilles doivent butiner 8 millions de fleurs? C'est ce que j'ai lu en préparant cette émission.
Oui, c'est considérable. Puis il faut bien comprendre aussi que on dit 8 millions, c'est une estimation, on les a pas, voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que quand une abeille sort de la ruche, c'est au soir de sa vie, donc c'est à la fin de sa vie qu'elle va butiner. Elle va butiner un seul type de fleur, c'est-à-dire qu'elle va pas passer de pissenlit en aubépine, en trèfle, etc. Quand elle sort de sa ruche, elle fait un vol, elle va visiter que des pissenlits, que des aubépines, et elle revient à la ruche.
Dans quelques instants, on continue à s'intéresser aux vertus thérapeutiques du miel. Ce sera juste après la chronique de notre médecin et romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt. Quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu.
Oui, allez, je voulais vous parler de Marc. Je m'occupe de Marc et de ses enfants depuis 5 ans. Je les ai vus grandir. Bon, lui, je l'ai vu vieillir. Et j'aime à penser que j'ai été là pour peut-être le moment le plus difficile de leur vie. L'autre jour, il vient me voir. Il m'explique que lors de la précédente consultation, je lui ai prescrit un anti-inflammatoire, alors qu'il est gravement allergique aux anti-inflammatoires. Alors, je regarde sur l'ordinateur. Effectivement, c'est écrit en gros, en rouge, dans les antécédents. Allergique aux anti-inflammatoires. C'était immanquable, Ali. Alors, on nous apprend très mal, voire pas du tout à l'école de médecine, à gérer les erreurs médicales et à la manière dont une erreur, lorsqu'elle est commise, peut ou non nuire à la relation médicale. Et devant mon air vraiment mortifié, Marc a tenu à me rassurer de suite, il m'accordait toujours sa confiance. Et c'est précieux ça, Ali, la confiance du patient, c'est le miel de notre métier. Et il m'est arrivé de la gagner chez certains patients. Il m'est arrivé aussi, souvent, parfois, de la perdre chez d'autres, pas plus tard que vendredi dernier. Bref, il faut en être digne de cette confiance. Et du coup, je voulais savoir ce qui fait qu'un patient accorde sa confiance ou la retire selon les cas à un médecin. Et j'ai donc posé la question aux personnes qui me suivent sur les réseaux. La question était la suivante. Qu'est-ce qui, pour vous, est déterminant dans la confiance que vous accordez à un médecin et, a fortiori, votre médecin de famille? Et j'ai obtenu plusieurs réponses, et pour beaucoup de gens, la première vertu dont doit témoigner un médecin pour qu'on lui accorde notre confiance semble être l'écoute. Mais pas n'importe laquelle, l'écoute sans jugement, c'est fondamental. Et ça passe aussi par croire en la plainte du patient et ne pas juger parce qu'il a, poussé par une inquiétude qui est bien légitime quand on est malade, chercher sur internet les raisons de son mal. La deuxième vertu, c'est la compétence, et notamment la capacité à reconnaître ses limites. Je sais que je ne sais pas et je vais me renseigner. Eh bien, cette phrase, elle est plus rassurante pour les patients qu'un soignant qui ne sait pas mais pense savoir. En gros, il faut être compétent et humble. Une troisième vertu qui revenait dans les réponses, c'est être capable de livrer des explications claires sur ce qui motive notre prise de décision. Expliquer les grandes lignes de notre orientation thérapeutique et être capable de dire cette phrase qui est parfois terrifiante pour le patient mais aussi pour le médecin, il n'y a pas besoin de prescription. Une quatrième vertu, la dernière, c'est la bienveillance. Et ça passe par tout simplement le respect de l'intégrité du corps de l'autre. Expliciter les gestes médicaux, c'est montrer de la considération pour le corps souffrant du patient, donc pour la personne qui vit avec ce corps. Alors, c'est pas le bout du monde, puisque cela passe par expliquer clairement ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire avant d'examiner cliniquement les patients. Je conclurai avec ces mots d'une lectrice qui me paraissent très importants. Ce qui fait que j'accorde personnellement ma confiance à un médecin, c'est sa position en regard des populations dont la situation est plus fragile que la mienne dans la société. Car si un médecin se permet de juger, mal parler ou mépriser une potentielle partie de sa patientèle, comment être certain qu'il ne me range pas dans une de ces cases qu'il n'aime pas et décide de mal me soigner ?
La chronique de Baptiste Beaulieu à podcaster et à partager sur vos réseaux sociaux. Juste après le disque, on s'intéresse aux véritables bienfaits du miel. Ce sera juste après The Archies à 10h31. Sugar. Interpréter Sugar, Sugar.
Grand bien vous fasse, Ali Rebi, sur France Inter.
Et on s'intéresse ce matin aux bienfaits du miel. Racontez-nous les vertus thérapeutiques, les bienfaits cosmétiques, gustatifs du miel au 01 45 24 7000. Sans oublier de nous laisser un message sur l'appli France Inter. Énormément de questions. Patrick nous demande quelle est la différence entre le miel et la gelée royale. C'est pour vous, Henri Clément. Vous êtes apiculteur.
C'est deux produits totalement différents qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que le miel, on en a parlé, c'est le travail à partir du nectar. La gelée royale, c'est une substance qui est sécrétée à partir du pollen par les glandes qui sont situées dans le cerveau des abeilles pour alimenter la reine au sein de la colonie, qui participe légèrement à la bouillie qui nourrit également les larves, mais très 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 petitement. Et il faut bien savoir que c'est un produit fabuleux, puisque entre une reine qui peut vivre 4-5 ans, qui pouvait vivre 4-5 ans, et une ouvrière qui peut vivre 3-4 semaines au printemps, au départ c'est le même œuf, et c'est la gelée royale qui fait la différence entre les deux. Donc c'est un produit extrêmement complexe, avec énormément de composés, avec énormément de qualité pour la santé, pour le bien-être, pour vous dynamiser, etc. Moi je le conseille à beaucoup de gens qui passent des examens, qui ont été opérés, etc. et tout, et c'est fabuleux. Mais ça n'a absolument rien à voir.
Joseph et Merlin, question pour vous. Je rappelle que vous êtes ingénieur de recherche à l'INSERM. Maria nous demande si la couleur du miel a une importance du point de vue des vertus thérapeutiques.
Totalement. La couleur du miel traduit la composition, la concentration du miel en polyphénol. Et les polyphénols, on le sait aujourd'hui, ont des vertus particulières. Par exemple, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, mais je prends par exemple le miel de sarrasin, qui est très sombre, qui est donc très riche en polyphénol. On sait qu'il va agir directement sur le microbiote intestinal. Alors pour résumer, plus un miel est sombre, plus il est riche en polyphénol.
Rappelez-nous ce qu'est un polyphénol, s'il vous plaît.
Alors, les polyphénols sont des substances végétales, ce sont des métabolites secondaires que fabriquent les plantes pour se défendre. Lorsqu'on dit, par exemple, manger 5 fruits et légumes, c'est justement pour qu'on mange, pour qu'on ait une alimentation riche en polyphénols.
Une question de Patrice qui nous demande « Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le miel possède une telle stabilité face au vieillissement alors que d'autres produits organiques se dégradent rapidement ?» Joseph Omerlé.
Oui, alors l'explication est toute simple. Le miel est extrêmement riche en sucre, comme j'ai dit tout à l'heure. Il contient 80% de sucre, c'est donc comme les confitures qui se gardent, parce que le niveau de sucre, donc, c'est une question d'osmolarité. Les bactéries ne peuvent pas se développer dans le miel. Par ailleurs, le miel est naturellement acide. Son pH varie entre 3,5 et 5,5. Et on sait, par exemple, que le saucisson ou le yaourt se conservent parce qu'ils ont un pH acide. La différence avec ces autres produits est que l'acidité du miel ne provient pas, et ça va un peu clore la controverse que nous avions tout à l'heure, ça ne provient pas d'une fermentation comme dans le yaourt ou le saucisson, mais au contraire, c'est une enzyme, la glucose oxydase, qui en fabriquant l'eau oxygénée, produit en même temps de l'acide gluconique, qui va donc acidifier le miel et le rendre... une conserve. Conserve d'un produit sucré.
Marie-Claire Frédéric, je vous promets un jour de consacrer un grand même face à la fermentation ou pas du miel. Jean nous demande pourquoi le miel est bon pour la gorge, Joseph et Merlé. Pourquoi, en cas de toux, de petits problèmes de gorge, le miel liquide, notamment, est indiqué?
Oui. Alors, pour une raison toute simple, parce que dans le miel, vous avez donc cette glucose oxydase. Cette glucose oxydase fonctionne très bien lorsque le miel est un peu hydraté. C'est un petit moteur enzymatique qui va se mettre en route. Or, quand vous prenez du miel en bouche, vous le laissez en bouche où il y a 33 degrés, on sait que les enzymes fonctionnent très bien à des températures physiologiques, et qu'en plus la salive apporte dans l'eau, vous allez donc réactiver ce moteur qui fabrique la fameuse peroxyde, le fameux peroxyde d'hydrogène, et qui va désinfecter les lésions que vous avez en bouche. De plus, dans le miel, vous avez des peptides antimicrobiens, des défensines, qui vont donc également s'attaquer directement aux bactéries qui vous posent de problèmes.
Bonjour Marie. Bonjour Marie.
Bonjour, excusez-moi.
Vous étiez en train de manger du miel, c'est ça?
Presque. Ce matin, en tous les cas, comme tous les matins.
Vous appelez de Gap, et vous êtes une grande consommatrice de miel, hein?
Oui, et justement, ma question, c'est, je me demandais si on n'en consommait pas trop. On en consomme de plus en plus, j'ai l'impression. Ça fait déjà au moins 30 ans que nous n'achetons plus de sucre du tout. On consomme, oui, à peu près, je pense, en moyenne, 1 kilo par mois, et encore, j'ai pas refait la moyenne, peut-être c'est plus. On est deux personnes seulement, au foyer. Bon, on est plutôt sportif, certes, mais bon...
Heureusement.
Pas toujours. Et je me demandais, voilà, si on ne consommait pas trop de sucre, même si les sucres étaient variés, et si justement, s'il n'y avait pas une dépendance, si c'était pas comme le sucre, si on n'arrivait pas à être une dépendance... Ah oui, ça ne crée pas une dépendance. Oui. Si c'est pas indépendamment de nous, enfin indépendamment, s'il ne faudrait pas de la volonté, si on n'a pas une dépendance justement
au miel.
À ce miel. Voilà.
Et bien pour vous répondre, nous accueillons le docteur Catherine Lacrenière. Bonjour, oui. Catherine Lacrenière.
Bonjour Alice.
Vous êtes médecin nutritionniste, bien connu de nos auditeurs. Alors ce matin, on célèbre les vertus du miel, mais c'est un aliment riche en glucides, nous le rappelle Marie. Les glucides qui représentent environ 80% de la masse du miel. La valeur énergétique de 100 grammes de miel, c'est 300 calories, c'est moins que pour le sucre. Oui. 400 calories. Donc il faut faire attention à notre consommation de miel tout de même.
Ah oui, tout à fait. On ne peut pas en consommer de manière trop importante parce que sinon, eh bien, on risque différents effets secondaires et en particulier une prise de poids. Mmh. Il faut rester, vous savez, comme toujours en nutrition, le plus est l'ennemi du bien. Mmh.
Et puis le miel, Catherine Lacrenière, contient du fructose et on sait que consommé en excès, le fructose est métabolisé en graisse dans le foie.
Tout à fait. Entre autres, en Grèce, on appelle les triglycérides. Mmh. Et l'hypertriglycéridémie est un facteur de risque cardiovasculaire puisqu'il va les triglycérides se déposent sur la paroi des grosses artères, que sont les coronaires qui nourrissent le cœur, ou les carotides qui nourrissent le cerveau. Et ça va favoriser les maladies cardiovasculaires. Ça donne également un risque d'augmentation du volume du foie. Et dans de très rares cas, alors là, il faut être prédisposé, mais il y a une complication grave qui s'appelle la pancréatite aiguë, qui est une inflammation aiguë du pancréas qui peut vous conduire à l'hôpital.
Oui, bah, ça, c'est si on ingère énormément de miel. Hein.
Bon. Ah oui, là, un kilo par jour. Hein.
Et est-ce que les personnes qui souffrent de diabète de type 2 doivent s'interdire de consommer du miel ?
Non, pas du tout. Au contraire, tant que c'est consommé avec modération, le miel a toute sa place dans l'alimentation des diabétiques, puisqu'on a vu que ça donnait un meilleur équilibre de la glycémie. Et puis, ça agit également au niveau des graisses. Mmh. Ça va augmenter le bon cholestérol, le cholestérol HDL, qui va aider, là, cette fois-ci, à lutter contre les maladies cardiovasculaires. Donc, avec modération, ça a toute sa place. Et si on a un doute, eh bien, on demande à son médecin traitant.
Et puis, il faut rappeler que l'index glycémique du miel est plus bas que celui du sucre. Hein.
Oui, tout à fait. L'index glycémique, c'est donc le pouvoir sucrant de l'aliment. Et pour les diabétiques, on fait très attention à utiliser des index glycémiques bas ou même moyens. Et bien, c'est le cas du miel. En moyenne, il est à 55, alors que le sucre de table a un index glycémique aux alentours de 70. On peut même avoir des index glycémiques plus bas, jusqu'à 32-35.
Et Joseph Emerlet, peut-on dire que plus le miel est clair, comme le miel d'acacia, plus son index glycémique est bas ?
Non, ça n'a aucun rapport.
Je pensais, c'est une idée reçue, je pensais que c'était le cas.
C'est le fructose qui détermine l'index glycémique.
D'accord. Henri Clément, vous vouliez intervenir ?
Oui, je voulais dire citer l'exemple de mon père qui avait été très fatigué et qui consommait 1 kilo par semaine. Et le médecin lui disait « Heureusement que vous mangez du miel, sinon vous ne seriez pas dans cet état-là ». Et simplement rappeler à nos auditeurs que la consommation de miel en France reste très faible. On considère que c'est entre 600 et 700 grammes de miel par an et par habitant. Donc on est loin des dangers qu'on a évoqués. Il faudrait, comme le disait votre nutritionniste, en consommer 1 kilo par jour pour avoir ces problèmes-là.
Marie-Claire Frédéric, vous vouliez intervenir.
Oui, je dis, on est vraiment loin des... Enfin, il y a peut-être quelques... Il y a toujours des exceptions, des personnes qui en consomment beaucoup, mais en règle générale, c'est vrai.
Merci beaucoup, docteur Catherine Lacrenière, d'être intervenue. Et merci à vous, Marie, d'être intervenue. Alors, j'aimerais qu'on revienne aux vertus du miel et en particulier aux bienfaits cosmétiques du miel. Joseph Emery, vous écrivez que la gluconolactone du miel bichonne la peau. Expliquez-nous, la gluconolactone, expliquez-nous.
Voilà. Alors, la gluconolactone est produite naturellement dans le miel. C'est un produit de dégradation, toujours du glucose, qui a des vertus hydratantes, apaisantes et anti-âge, qu'on utilise d'ailleurs dans les produits cosmétiques courants que vous achetez dans les magasins.
Marie-Claire Frédéric, sur ces vertus cosmétiques du miel.
Alors, c'est connu depuis la plus haute antiquité. On raconte que Cléopâtre prenait des bains de lait avec du miel.
C'est vrai, ça?
Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est dans des manuscrits anciens. Bon, voilà. Il y a aussi d'autres grandes dames de l'antiquité, comme la Popée, la femme de Néron, qui aussi faisait des masques au miel. Il y en a et dans toute l'histoire, je sais pas, Diane de Poitiers aussi. Il y a une duchesse anglaise dont j'ai oublié le nom qui avait, paraît-il, de très beaux cheveux qu'elle soignait avec du miel. Enfin, il y a énormément d'exemples comme ça.
Un masque simple à faire à la maison après avoir nettoyé sa peau, mélanger du miel d'acacia.
Mélanger du miel d'acacia
et de l'huile d'olive.
De l'huile d'olive ou de l'huile d'amande douce et on met ça sur la peau, on le garde un petit peu parce que c'est quand même assez collant.
10 minutes, un quart d'heure.
Ensuite, on rince et on a la peau toute douce et toute, en plus, toute nettoyée. Enfin, ça fait un effet.
Henri Clément, est-ce que vous avez la peau toute douce en faisant des miels, des masques au miel?
Ah, je n'en fais pas particulièrement, mais je sais que le miel est largement utilisé, effectivement, et qu'il a de grosses qualités à cet effet, c'est évident.
Alors, nous recevons beaucoup de questions sur le choix du miel. Quels sont vos conseils pour choisir un bon miel, Henri Clément?
Alors, pour choisir un bon miel, déjà, il faut comprendre qu'on a une énorme variété de miel sur notre territoire. Donc, on organise un concours des miels chaque année à l'Union nationale de l'apiculture française et on avait près de 30 sortes de miels différents, des miels clairs, des miels foncés, des miels doux, des miels corsés, etc. Il faut que le consommateur choisisse les miels qui lui conviennent. Pour choisir un bon miel, il faut aussi s'adresser à l'apiculteur, aux apiculteurs locaux qui vous feront déguster leur production et vous choisirez parmi ces miels-là. Il faut être très vigilant sur l'étiquetage. On vient d'avoir une très belle victoire il y a quelques semaines, puisque maintenant un décret a été pris qui oblige les conditionneurs à indiquer l'origine par pays des miels qui composent les miels d'assemblage qu'on trouve en grande distribution. Jusqu'à présent, ils étaient étiquetés UE, non UE, c'est-à-dire qu'ils étaient de la planète Terre, mais d'où ils venaient, on n'en savait rien. Donc maintenant, on va pouvoir savoir s'ils viennent d'Espagne, de Thaïlande, de Chine, d'Ukraine, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que les consommateurs lisent bien les étiquettes pour ne pas se faire tromper et qu'ils fassent attention au packaging parce que certains mettent en avant entreprise familiale, apicole depuis tant d'années, etc. et qui font des milliers de tonnes. Et derrière, il faut vraiment lire en tout petit d'où ça vient. Donc, achetez locaux, prenez du miel d'apiculteurs autant que possible. On peut trouver de très bons miels partout dans le monde, hein, mais priorité au local.
Et que retrouve-t-on dans les miels frelatés? On retrouve de l'eau, du sucre, du sirop de glucose, c'est ça?
Il faut comprendre qu'en fait, dans le monde, en règle générale, les productions diminuent, que ce soit notamment en raison du bouleversement climatique, des pesticides, on ne va pas revenir là-dessus. Les grandes zones de production, notamment autour de la Méditerranée, connaissent des baisses de récoltes. C'est le cas également en Argentine, au Canada ou aux États-Unis. Il y a une région dans le monde qui continue à produire chaque année, de plus en plus de miel, c'est l'Asie, notamment la Chine, le Vietnam, etc. Et on sait très très bien qu'une partie de ces miels sont des miels artificiels, c'est-à-dire ce sont des miels qui n'ont jamais vu une abeille. Ils sont extrêmement bien élaborés à partir de sirop, de maïs, de riz, avec des incorporations de pollen, etc. Ils arrivent à passer le cap des analyses de routine qu'on peut faire pour contrôler les miels. Mais si on cherche bien, on arrive à les déceler. Mais c'est une véritable catastrophe parce que c'est pas du miel, c'est une concurrence déloyale. Et ils arrivent à des tarifs en plus défiant toute concurrence, à 2 euros le kilo, alors que nous, le coût de revient, et avec l'inflation actuelle, c'est autour de 4,50 euros, 5 euros le kilo. Donc vous voyez que c'est une catastrophe de voir ces miels artificiels prendre le pas sur les miels naturels.
Et hier, dans une épicerie, j'ai repéré une horreur, un pot qui ressemblait à du miel, une préparation à base de sirop de glucose, arôme miel pour pâtisserie et qui contenait du colorant E150D, une horreur totale, mais qui ressemble à du miel.
C'est vraiment une horreur.
Marie-Claire Frédéric.
Tout à fait. Et malheureusement, enfin, j'espère qu'il n'y avait pas le mot miel sur l'étiquette.
Non, il n'y avait pas le mot miel.
Mais
ça prête à confusion.
Oui, c'est trompeur, exactement. Exactement. Et peut-être que la loi est mal faite pour la loi qui permet de contrôler la composition du miel, parce qu'actuellement, pour avoir le droit à s'appeler miel, on analyse la composition du miel. Donc il doit y avoir tant de glucides, etc., tant de différents produits. Et tout ça, c'est possible de le faire artificiellement. Alors, je ne sais pas ce qu'il faudrait. Il faut que des spécialistes se penchent sur la question. Mais une loi sur le miel, c'est nécessaire.
Joseph Emerlé.
Pardon ?
Oui, vous vouliez réagir, Joseph Emerlé.
Oui, oui. Je voulais juste, pour compléter les deux propos précédents de mes collègues, que la première fraude alimentaire documentée dans l'histoire, c'était du miel frelaté, et ça date de 1889. Donc on voit que c'est une très vieille histoire.
Alors, on n'a pas encore parlé du miel en cuisine. Tiens, faites-nous saliver avec l'emploi du miel en cuisine, Marie-Claire Frédéric. Je rappelle que vous êtes également journaliste culinaire.
Le miel, on l'emploie dans tout un tas de plats, que ce soit en salé ou en sucré. Ben, évidemment, c'est surtout en sucré qu'on l'utilise depuis la nuit des temps encore. On faisait déjà des gâteaux au miel en Égypte, dans l'Égypte ancienne, qui ressemblaient tout à fait à nos pains d'épices actuels. Mais si vous voulez l'utiliser en salé, vous pouvez l'ajouter dans une sauce, dans une vinaigrette par exemple, pour un petit peu donner de la douceur. Dans une sauce tomate aussi, ça va enlever un peu d'acidité.
Ah oui,
vous pouvez
laquer
une viande avant de la cuire, ou un poisson. Il y a énormément de choses qu'on peut
faire.
Du chèvre, c'est très bon. Avec le fromage, c'est très très bon. On peut faire aussi de la confiture en remplaçant le sucre par du miel. Alors, évidemment, ça fait une confiture très chère, mais point de vue gustatif, c'est très bon.
Et vous êtes une grande amatrice d'hydromel. Hein. Rappelez ce qu'est l'hydromel en quelques mots.
Alors l'hydromel, c'est...
Là, c'est fermenté pour le coup.
Vraiment fermenté. C'est donc un mélange de miel et d'eau qu'on laisse fermenter naturellement. Et ça donne une boisson légèrement pétillante avec un arôme de miel extraordinaire.
Tiens, dernière question. Pourra-t-on encore manger du miel dans 20 ans, Henri Clément ?
Je l'espère. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même une situation qui devient très compliquée au niveau du maintien en vie des colonies. Hein. On a des pertes très très importantes. C'est le cas aussi pour tous les autres insectes, hein, les insectes pollinisateurs qui connaissent un déclin sans précédent et extrêmement rapide. Bon, il faut espérer que les décisions politiques seront prises pour avoir un environnement beaucoup plus sain, lutter contre le bouleversement climatique, les pesticides, replanter des arbres, c'est fondamental, des haies, tout cela. Mais c'est vrai que la situation est compliquée. Là, par exemple, je viens d'avoir des amis au Canada. Cette année, ils ont entre 50 et 80% de pertes. Donc, c'est considérable, c'est colossal, et il faut vraiment prendre la mesure, puisque les abeilles, c'est bien sûr le miel, les produits de la ruche, mais c'est aussi la pollinisation. Et d'ailleurs, pour les pouvoirs publics, pour la communauté européenne, pour nos gouvernants, l'enjeu autour des abeilles, et là, ce n'est pas le miel, c'est la pollinisation, parce que c'est un tiers de notre alimentation sur la planète.
Allez, il est 10h52, l'heure de retrouver l'intervention de Thierry Lhermitte de la Fondation pour la Recherche Médicale. Alors, mon cher Thierry, ce mois-ci, vous vous êtes rendu à l'hôpital Foch à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, pour y rencontrer l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi. Il est gynécologue obstétricien et ses travaux de recherche ont été soutenus par la FRM. Lors de cette visite, vous avez également rencontré des parents heureux, Déborah et Pierre, avec leur petite fille de 14 mois, Misha. C'est la star du service.
Oui, et c'était très émouvant. Déborah, la maman, a donné naissance à Misha grâce à une greffe d'utérus prélevée sur sa propre mère. C'était une première en France. Dans le monde, cette greffe a été réussie en 2014 par une équipe suédoise avec laquelle le professeur Ayoubi collabore d'ailleurs depuis 2009. Avec son équipe, il travaille depuis 15 ans sur la greffe d'utérus. La naissance de Misha, en février 2021, a été l'aboutissement de toutes ces années de recherche et on en a beaucoup parlé dans les médias du monde entier.
Et pourquoi une greffe d'utérus était-elle nécessaire ?
Eh bien parce que la maman était née sans utérus, comme une femme sur 4500. C'est le syndrome MRKH, je vous passe le nom des auteurs. Tout le reste de l'appareil reproductif est présent et fonctionne, ovaire, cycle hormonal, etc. Mais en l'absence d'utérus, toute grossesse est bien sûr impossible.
Et quelle est la fréquence de ce syndrome dans la population générale ?
C'est 4500,
d'accord,
comme je viens de le dire.
D'accord.
Et la cause, est-ce que c'est génétique, non ? Eh ben, on ne sait pas très bien si c'est génétique. En tout cas, c'est sans doute multifactoriel et bien sûr pas héréditaire, sinon le syndrome aurait disparu. La petite fille, Micha, n'en est d'ailleurs pas atteinte. En général, on ne s'en rend compte qu'à la puberté du fait de l'absence de règles. Mais hormis ce syndrome, bien d'autres femmes jeunes pourraient aussi bénéficier de la greffe d'utérus. Celles qui ont subi une ablation pour un cancer gynécologique ou à la suite d'une hémorragie de la délivrance après l'accouchement.
Alors quelle est la particularité de la greffe d'utérus? Pourquoi a-t-il fallu tout ce temps pour une telle réussite?
Alors, il n'y a pas d'urgence à chercher dans ce domaine parce que l'utérus n'est pas un organe vital, au contraire du foie, des poumons ou du cœur. Et le professeur Ayoubi a choisi de prélever l'utérus sur une donneuse vivante, j'y reviendrai. C'est donc une innovation qui impliquait des processus d'autorisation multiples et compliqués pour tendre vers le risque zéro. Entre les premières demandes d'autorisation et la naissance de Micha en 2021, il s'est passé une dizaine d'années. Mais pendant ce temps, l'équipe n'a pas chômé. Les chirurgiens ont développé une intervention chirurgicale robotisée. Ils ont aussi réalisé plus de 50 transplantations chez la brebis. Alors pourquoi la brebis? Parce que son utérus est très semblable à celui de la femme, y compris le diamètre des très petits vaisseaux sanguins à raccorder. Et pendant ce temps-là, il a fallu aussi sélectionner les patientes éligibles avec des critères très stricts comme avoir fumé moins de 6 mois dans sa vie pour la receveuse comme la donneuse, la vérification d'infection, etc. Bon, grosso modo, pour sélectionner 10 couples, le professeur Ayoubi a vu en consultation quelques 1000 personnes au total avec les proches.
Et comment se déroule une telle greffe ?
Alors, première étape, il y a un entretien préalable d'information avec le couple receveur et la donneuse. Et ensuite, un délai de réflexion de 3 mois. Deuxième étape, le couple receveur fait une fécondation in vitro, car avant de faire la greffe, avec les risques associés, faut être sûr d'avoir des embryons implantables. Et enfin, les interventions chirurgicales ont lieu le même jour, dans 2 blocs opératoires voisins. Ça, c'est l'avantage d'avoir une donneuse vivante. Tout peut être programmé à l'avance. Et pour la compatibilité, c'est plus facile, bien sûr, avec une donneuse apparentée, mère, sœur, mais ça peut aussi être la belle-mère, par exemple. Pour Déborah, c'était sa maman.
Et l'intervention a duré combien de temps ?
18 heures. Les deux interventions ont été programmées un dimanche à l'hôpital Foch pour avoir la logistique nécessaire. Le prélèvement a commencé à 7 heures et à 1 heure du matin, le lendemain, l'équipe avait rétabli la circulation sanguine de l'utérus transplanté. Premier succès. Le deuxième succès, ça a été de découvrir dès le 7e jour que naturellement, sous l'action des hormones de la patiente, l'endomètre se reconstituait. L'endomètre, c'est ce qui tapisse l'utérus, c'est le lit qui, chaque mois, se prépare à accueillir l'embryon potentiel et qui n'existe plus après la ménopause. Donc c'était la preuve que l'utérus greffé, provenant d'une femme ménopausée, dans un environnement hormonal adéquat, se mettait à nouveau à fonctionner.
Et ensuite, il a fallu attendre combien de temps pour implanter les embryons ?
Mais alors, comme toute greffe d'organes, la patiente était mise sous immunosuppresseurs, ces médicaments qui suppriment la réaction immunitaire contre le greffon étranger. Il faut attendre 1 an pour s'assurer qu'il n'y a pas de rejet. Le transfert d'embryon a été légèrement retardé du fait du premier confinement, mais il a réussi immédiatement. La grossesse s'est parfaitement déroulée et Micha est né par césarienne en février 2021.
Une magnifique réussite.
Oui, la petite fille est magnifique. Alors, faut saluer ses équipes, investies bénévolement dans ses recherches. Cet exploit n'a pas coûté un centime à la Sécurité sociale et a été possible grâce à la Fondation d'Hôpital Foch, qui est un centre expert pour la transplantation d'organes et le premier centre de PMA en France. L'équipe et le couple se donnent 5 ans, le temps éventuellement d'une seconde grossesse, avant de retirer l'utérus transplanté pour éviter le traitement immunosuppresseur à vie, qui est assez toxique.
Et quelle a été la partie financée par la Fondation pour la recherche médicale ?
Ben, il s'agit de recherches précliniques menées par Marie Carbonel, une jeune gynécologue obstétricienne qui a rejoint l'équipe du professeur Ayoubi il y a 10 ans. Ses travaux cherchent à améliorer la conservation du greffon et à limiter les phénomènes de rejet. Pour ça, elle teste une nouvelle molécule pour conserver les greffons en attente de transplantation. Il s'agit d'hémoglobine provenant d'un ver marin qui est compatible avec tous les groupes sanguins et surtout qui a la propriété de transporter 40 fois plus d'oxygène que notre hémoglobine. Il a déjà été prouvé que cette molécule améliore la récupération de fonction du greffon pour le rein. Donc Marie Carbonel étudie en modèle animal, toutes les protéines produites par l'utérus transplanté, soit avec le protocole classique, soit avec cette nouvelle solution. Donc ces travaux visent à comprendre au niveau moléculaire ce qui se passe après la greffe. Elle espère ainsi améliorer le protocole de greffe d'utérus, mais aussi la greffe d'autres organes.
Et comment aider la FRM ?
Eh ben, en envoyant le SMS don au 92 300, 10 euros seront prélevés sur votre facture téléphonique ou par internet sur le site frm.org.
92 300, merci beaucoup Thierry. On vous retrouve le mois prochain et merci Marie-Claire Frédéric. Merci. Le miel, une autre histoire de l'humanité publiée chez Albin Michel. Merci beaucoup Joseph et Merlet. Le miel, résurgence d'un remède millénaire, c'est publié aux éditions de Terran. Et merci Henri Clément. Je rappelle que vous avez publié L'apiculture pour les nuls chez First.